Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Et si tu restes dans la situation dans laquelle tu t'es, où t'es pas vraiment heureuse, mais bon, tu restes dedans parce que c'est confortable. Je pense que sur la durée, c'est très dangereux parce que ça crée des frustrations énormes. C'est d'une tristesse absolue. Ça manque d'esprit d'aventure. Et qu'est-ce que c'est la vie si ce n'est l'aventure, quoi?
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je reçois Jessica Troisfontaine, ancienne avocate, créatrice de la marque engagée Septem et consultante en stratégie éditoriale. C'est un épisode un peu particulier puisque c'est le premier que nous avons enregistré en live avec une trentaine de femmes à Paris, dont le concept store Germaine qui nous a gentiment accueillis pour ce podcast apéro live. Mille excuses par avance pour le bruit, les éboueurs et tous les aléas du direct. Tout cela sera largement compensé par le témoignage de Jessica que j'ai trouvé captivant. On a parlé lancement de projet, réfléchir à la personne que nous avons envie d'être et comment surmonter les peurs qui nous empêchent souvent d'oser. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Jessica devant ses chroniques de bonne bouffe. Belle écoute. Bonjour Jessica.
Bonjour Sarah.
Bienvenue sur le podcast. Je suis ravie que tu prêtes ta voix au podcast. Pour la petite histoire, donc c'est le premier podcast live de La Bascule. Donc on est ici pour ceux qui vont nous entendre plus tard avec une trentaine de personnes qui assistent à l'enregistrement du podcast. Et donc tu vas également pouvoir répondre aux questions des auditeurs, ce qui est plutôt exclusif. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui ne te connaît pas encore, mais si tu le souhaites, peux-tu te présenter en quelques mots?
Avec plaisir. Donc je m'appelle Jessica Troisfontaine, j'ai 33 ans, je suis belge, j'habite à Paris depuis 13 ans. J'ai d'abord été avocate en droit des affaires pendant 2 ans. Ensuite, j'ai monté une marque qui s'appelle Septem, qui est une marque de prêt-à-porter et un média d'inspiration que j'ai décidé de fermer en octobre dernier pour me consacrer à mes deux plus grandes passions dans la vie, l'écriture et la nourriture. Donc, c'est à ça que je consacre toute mon énergie aujourd'hui. Et je suis aussi l'hôte d'un podcast qui s'appelle Ressentir, dans lequel j'interviewe des personnalités de tous horizons sur leur rapport aux émotions.
Vaste programme. Et alors, on va peut-être pas s'attarder tant que ça sur ta première bascule, parce que je sais que tu l'as beaucoup, beaucoup, beaucoup expliqué dans plein de podcasts. Mais quand même, en quelques minutes, si tu peux nous expliquer ton passage entre effectivement tes études de droit, ton parcours de droit, et puis d'un coup, la création de cette marque qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu fais.
Alors, je vais essayer de faire bref.
En fait, moi, je m'étais toujours dit, ou en tout cas, j'avais dit une fois quand j'avais 10 ans, que plus tard, je serais avocate en droit des affaires. Et après ça, je ne m'étais jamais pu poser la question de ce que je ferais de ma vie. J'ai fait mes études de droit en étant persuadée depuis le début que ce n'était pas vraiment pour moi, en fait. Mais que, enfin, en tout cas, c'était intéressant intellectuellement, mais je ne me voyais pas faire ce métier. Le problème, c'est que j'étais très bonne élève et très assidue malgré tout. Donc, j'ai très bien réussi mes études, ce qui suffisait à me motiver à les continuer. Ça a été un peu pareil ensuite, dans le début de ma vie professionnelle, dans un cabinet de droit des affaires américain. En fait, j'ai voulu démissionner dès la première année parce que ça ne me plaisait toujours pas. Mais comme on m'a brossé dans le sens du poil pendant tout l'entretien de fin d'année en me disant que je faisais un travail exceptionnel et en me donnant plus que le bonus maximum, etc., je me suis dit, mais c'est génial, en fait, je vais rester. Donc, j'ai rempli pour une année de plus. En fait, je raconte ça un peu dans le détail parce que ça arrive quand même très souvent qu'on se fourvoie entre être bon dans ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait. Donc, voilà. Donc, j'ai tenu 2 ans comme ça jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, vraiment, j'étais trop malheureuse. Et donc là, j'ai démissionné du jour au lendemain sans savoir ce que j'allais faire derrière.
Tu sais, c'était coup de tête. C'était vraiment impulsion.
Enfin, coup de tête, ça faisait quand même des mois que je pleurais aux chiottes entre deux rendez-vous. Enfin, tu vois, c'est bon. Il y avait une douleur qui s'était quand même bien installée depuis des mois, quoi. Et après, oui, j'ai décidé un matin, un lundi matin, et je l'ai annoncé directement aux associés en arrivant au cabinet. Mais bon, ça ne m'est pas venu dans la nuit, quoi. Et là, je me suis posé pour la première fois la question de ce que j'allais faire de ma vie, de ce qui me plaisait vraiment dans la vie. Et en fait, pour le coup, j'ai dû démissionner pour pouvoir me la poser, cette question, parce que je travaillais tellement, les horaires étaient tellement étendus que, en fait, j'avais aucun espace de cerveau disponible pendant le temps où j'étais en cabinet d'avocat pour réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, j'adore la mode, j'adore aussi la nourriture, mais je ne sais pas très bien ce que je pourrais faire dans la nourriture. Donc, je vais lancer une marque. Avec une énorme naïveté, et je pense que c'est très bien de se lancer avec une bonne dose de naïveté et sans avoir toutes les données dans les mains, sinon on ne se lance jamais, c'est un peu dommage.
Attends, mais donc au début, tu dis je vais lancer une marque, mais tu ne sais pas forcément que ça va être dans la mode.
Si.
Ah, tu sais
si,
quand
si,
même.
Si, si. Okay. Si, si, parce que j'adorais la mode.
Mais t'as plein de centres d'intérêt et tu juste en choisis. Hein.
Voilà, okay. Enfin, j'en avais deux principaux, la mode et la nourriture. Et je me dis, bon, ça, la nourriture, je vais prendre un resto, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre, la mode, ça a l'air assez simple. Je vais lancer une marque et tout en sachant bien que je n'ai aucune connaissance en stylisme et qu'il y a déjà énormément de marques. Donc, je me dis, bon, comment est-ce que je vais me différencier des autres? Je vais créer une marque monoproduit parce que de toute façon, je ne me sentais pas capable de faire des collections complètes au début. Les combinaisons, c'est quand même vraiment sympa. On n'en voyait quasiment pas à l'époque. Et puis, j'avais ce truc quand même j'avais fait tout un travail sur moi pendant cette période de réflexion. En cherchant notamment mon why, le fameux why de Simon Sinek, qui est chercher ce qui nous drive dans la vie, en gros. Et je m'étais dit qu'en fait, moi, ma démission, ça avait été un peu ma prise de pouvoir sur ma vie. Et du coup, j'avais envie d'aider d'autres femmes à faire pareil. Et donc, ça a infusé l'entièreté de la marque. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire qu'une marque de vêtements, même si c'est déjà très bien en tant que telle. Hein. J'ai voulu faire une marque qui avait une portée un peu plus grande et du coup qui portait cette ambition-là d'aider d'autres femmes à prendre le pouvoir sur leur vie. Alors ça paraît un peu marketing, mais en fait c'était totalement incarné dans tous les aspects de la marque. C'est-à-dire que les combinaisons, c'est quand même des vêtements où quand on les enfile, on se sent fort dedans, quoi. Soit protégée, soit puissante. Et moi, je réfléchissais, quand je dessinais mes collections, à créer des vêtements dans lesquels on se sent vraiment comme ça quand on les enfile. Et ce n'est pas marketing au point que je recevais toutes les semaines, pendant 5 ans, des messages de femmes qui corroboraient ça, qui me disaient « j'ai été à l'entretien d'embauche, j'ai eu le job, c'est grâce à toi ». Enfin, pas du tout, c'est pas grâce à moi, mais bon, ça me faisait plaisir. Ou « j'ai mis ma combi pour larguer mon mec ». Enfin, c'est des trucs vraiment que je recevais, quoi. Et du coup, en parallèle, depuis le début, ce n'était pas qu'une marque de prêt-à-porter, c'était un média, parce que je me suis dit, bon, toujours dans l'optique d'infuser le plus de moi possible dans la marque, je me suis dit, en vrai, j'adore lire, j'adore écrire, j'adore écouter les autres. Et en fait, c'est bien d'être bien habillé, mais c'est aussi bien de nourrir son cerveau. Et donc, je vais faire un média en même temps. Et voilà ce que j'ai fait pendant 5 ans.
Et attends, parce que là, on passe hyper vite sur le truc. Mais est-ce
Je me dis qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Mais ce qui est intéressant aussi, que moi, j'aime beaucoup poser comme question, c'est au début, donc tu connais rien au milieu, etc. Est-ce que tu as des obstacles? Est-ce qu'il y a des moments où tu as envie d'abandonner?
Non.
Jamais?
Non, il n'y a eu aucun moment où j'ai envie d'abandonner. Sur la fin, oui, on pourra y revenir. mais au début, pas... Franchement, ce n'est pas si compliqué de monter une marque. La faire fonctionner après, oui. La montée, non. Enfin, j'avais aucune connaissance. Je veux dire, j'ai tapé sur Google atelier de confection au Portugal parce que je me disais que ça avait l'air bien de produire au Portugal et ça l'a été. Mais je me suis dit c'est moins cher qu'en France. Ça a l'air aussi bien qu'en Italie. Et franchement, oui, j'ai envoyé des centaines de mails pour que 4 ateliers me répondent ou 3, je ne sais plus. Mais après, j'ai été les voir au Portugal et il y en a un qui a accepté. Enfin, c'est du travail, c'est pas mal d'heures. Voilà, je me suis fait une petite école en commandant plein de livres sur Amazon pour apprendre un peu tous les rudiments du métier. Mais il n'y a rien qui soit insurmontable ou qui demande d'être un génie, quoi.
Et côté finance, du coup, t'as un stress financier ou t'as un peu de temps? Parce que quand tu démissionnes, t'as pas de chômage, du coup.
Je n'ai pas de chômage, mais j'ai travaillé 2 ans en droit des affaires et on gagne extrêmement bien sa vie. On n'a aucun moment pour les dépenser.
Ok, donc t'avais un peu de temps devant toi.
Donc j'avais de l'argent sur mon compte en banque. J'en ai mis la moitié pour lancer Septem, parce que je n'avais pas fait le levée de fonds ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Mais... Et le reste me permettait de vivre modestement pendant 1 an. Et j'ai commencé à me payer avec la boîte au bout d'1 an.
Ok, ce qui est quand même bien de te payer au bout d'1 an avec une boîte de prêt-à-porter.
Mais je me suis payée la première année en remboursement de compte courant. Donc en gros, c'est assez pratique quand on met de l'argent au début dans une société qui est la sienne. On peut se rembourser cet argent-là. Et en fait, ça permet de, si on veut se payer 2000 euros, par exemple, de récupérer les 2000 euros sans devoir payer toutes les charges afférentes à un versement de salaire. Parce que sinon, en fait, ça coûte 4000 euros à la boîte.
Ouais, ok.
Mais pour ça, il faut avoir de la trésorerie sur le compte.
Et attends, donc, ok, donc ça roule au bout d'un an. Déjà, tu peux te payer. Sachant que Septem, ça dure au total 5 ans, c'est ça? Ouais. Donc après, t'es parti, ça roule, tu te payes, la marque fonctionne. Quand est-ce que tu commences à te poser un peu des questions sur que t'as des doutes, en gros, sur est-ce que c'est vraiment ce qui te correspond?
Je dirais au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, pour plusieurs raisons. La première, je pense que si je dois être tout à fait honnête, c'est que je me suis, je pense, un peu épuisée à la tâche. Donc j'ai dit que je n'avais pas le fait de lever de fonds. En y réfléchissant aujourd'hui, peut-être que j'aurais dû en faire une. Peut-être au bout de 3 ans. Avant, je pense que c'est trop tôt, ta boîte est trop jeune. Le moindre dizaine de milliers d'euros, en fait, t'enlèves beaucoup trop de parts, quoi, et tu perds vite le contrôle. Mais au bout de 3 ans, je pense que j'aurais pu faire entrer des investisseurs, ce qui m'aurait permis de mieux me payer, parce que quand même, jusqu'à la fin, je me suis mal payée, il faut le dire. Parce que je préférais... payer mes salariés correctement et tout réinvestir dans la croissance de la boîte. Mais moi, je me suis mal payée jusqu'à la fin. Et ça, en fait, on n'en parle pas, mais plein d'entrepreneurs dont vous connaissez les boîtes aujourd'hui qui ont l'air d'être des gros succès se payent en tant que fondateur très mal. Alors, on ne fait pas ça pour la gloire, mais bon, et puis ce n'est pas la gloire qui paye le loyer, quoi. Donc ça, quand même, c'est un certain poids, mais ce n'est pas du tout ça qui m'a poussé à arrêter, c'est que j'avais pas du coup les moyens d'embaucher, je pense, suffisamment de personnes et à des postes suffisamment stratégiques pour vraiment me décharger. Et donc, jusqu'à la fin, j'ai quand même fait énormément de choses moi-même. Et donc, je faisais à la fois toutes les collections, à la fois toute la communication, toute la partie administrative et financière. J'avais un podcast en même temps. Enfin, ça fait beaucoup pour une seule personne. Plus la gestion des équipes. Ouais. Et donc, en fait, je pense que je me suis quand même... je me suis un peu épuisée. Donc... ça finit par te dégoûter un peu aussi, quoi, d'avoir aucune vie. Et tu te dis, finalement, en fait, est-ce que j'ai vraiment monté ma boîte pour en être l'esclave? Et en même temps, tu te retrouves un peu coincé à un moment. Voilà. Et donc ça, c'est une chose. Et après, il y en a une autre, c'est que mes considérations éthiques, écologiques ont pas mal évolué entre le moment où j'ai lancé cette thème et la fin. En gros, j'en avais très peu au début, mais c'était une autre période, hein. Franchement, ça allait très vite, et tant mieux le fait qu'on parle de plus en plus de ça, mais j'avais de plus en plus un problème avec le fait de me dire je crée des vêtements pour que les femmes les portent le plus longtemps possible et le plus souvent possible, et qu'elles ne se démodent pas, elles ne s'abîment pas, et c'était la réalité. Et après, tu as une autre réalité qui est la réalité économique, qui est qu'il faut proposer des nouvelles collections tous les mois. Sinon, les gens, ils l'ont vu un mois, ils n'ont plus rien à faire le mois d'après. Ils veulent des nouveautés en permanence. Créativement, ça n'a aucun sens et c'est épuisant. Et puis éthiquement, tu te retrouves à devoir pousser avec des techniques marketing des vêtements et des nouvelles collections en permanence à des gens qui n'en ont pas besoin. Et
tu sentais ça, que tu n'arrivais pas à faire les choses différemment, que tu étais quand même obligée de suivre le mouvement?
Non, mais j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la précommande, en fait. Tout le monde en parle, en fait. Ça marche très difficilement, ne serait-ce parce qu'il y a toujours des retards de production. Et puis les gens râlent, ils demandent des réductions. Et en fait, elle est précommande, mais après, les gens le retournent, mais c'est normal. En fait, on voit bien que quand même, la vaste majorité des marques très vertueuses qui se sont lancées avec des systèmes de précommande finissent toujours par avoir des stocks parce que tu rates les achats d'impulsion. Et aussi, en fait, c'est normal. Tu as un date, tu as un rendez-vous important, bah, tu te réveilles la veille et tu as envie de ta tenue maintenant, tu vois. Et il y a plein de marques. Mais moi, je pense qu'évidemment qu'il y a plein de choses à continuer à essayer. Moi, j'ai, entre guillemets... abandonné parce que je me sentais plus l'énergie, je me sentais plus portée par ce projet-là. Mais heureusement qu'il y a plein de marques qui le font très bien et qui continueront à essayer de disrupter le modèle. Mais la vérité, c'est que les tentatives pour le faire, créer des intemporels, ressortir que des iconiques, etc., d'un point de vue commercial, c'est compliqué.
Et du coup, au bout de 4 ans, tu as un peu ces doutes. Est-ce que tu en parles? Comment tu fais? Parce que ça, c'est un sujet qu'on a quand même évoqué dans plusieurs podcasts. C'est le fait de toi, tu ressens un truc et en même temps, il y a quand même ton entourage qui te dit vas-y, accroche-toi. Et en plus de l'entourage, tu as aussi, pas les diktats, mais tu vois, des réseaux sociaux qui te disent success story, etc., etc. Donc, est-ce que tu t'es dit à un moment, vas-y, il ne faut pas que je lâche? Peut-être qu'en fait, là, c'est juste un coup de mou ou vraiment, tu savais déjà au fond de toi que ça n'allait pas le faire?
Mon entourage ne me poussait pas à continuer. Il me disait de m'écouter. Un an quasiment avant d'arrêter, j'avais réuni quand même mes meilleures amies et les femmes que j'estimais le plus chez moi un dimanche, en leur disant en fait, je crois que j'en peux plus, je sais pas quoi faire, et je sais pas d'ailleurs ce que je pourrais faire d'autre. Et en fait, je leur avais dit, en fait, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous en pensez en fait de l'extérieur et dans quoi vous me verriez bien, ce que vous me verriez bien faire d'autre.
Ah, c'est une bonne technique.
C'était hyper intéressant. Et j'avais pris plein de notes. Et puis la collection d'après était sortie, ça avait été un carton. Et je me suis dit, bon, finalement. Mais bon, les graines étaient semées. Bon, je pleure beaucoup, on en reparle. Mais, mais du coup, il y avait quand même beaucoup de matins. Je me réveillais, je me mettais à pleurer. Mon mari qui me dit, mais c'est pas possible. Enfin, il y a un truc, j'avais trop de stress aussi sur mes épaules. Parce qu'il y a une pression financière et les gens à payer. Il y a tout le temps... Enfin, c'est beaucoup, en fait. On ne dirait pas de l'extérieur, mais c'est quand même beaucoup à gérer. Et quand tu ne dors pas beaucoup, c'est compliqué. Et donc, bon, non, mon mari, par exemple, mon mari qui, pour le coup, me voyait au quotidien, ne me disait pas du tout, vas-y, accroche-toi, continue. Il me disait, en fait, écoute-toi. Et si tu as envie d'arrêter, bah, moi, je serais là. Enfin, tu vois, moi, mes amis étaient plutôt dans ce discours-là. Et quand j'ai vraiment pris la décision d'arrêter, j'étais chez ma psy. Et donc, je me plaignais encore que c'était tellement dur, que je n'en pouvais plus. Et à ce moment-là, je m'étais quand même posé la question de faire une levée de fonds, en fait. Mais je pense que c'était arrivé trop tard et que du coup, je n'avais plus l'énergie pour. Et donc, je me peignais auprès de ma psy pour dire, en fait, j'arrive même pas à sortir la documentation de la levée de fonds. Je ne suis même pas sûre qu'est-ce que je vais leur raconter, etc. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, je savais que faire cette levée, ça remettait une pièce dans la machine pour 3 ans minimum et que... Je pense que j'avais fait le tour en fait, de ce que j'avais donné à Septem. Et là, ma psy m'a juste dit, mais là, en fait, si vous dites que vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe en vous? Et j'ai eu une illumination, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout le poids du monde s'enlève de mes épaules. C'est génial. Et donc là, je suis partie de la séance. J'ai appelé mon mari, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, j'arrête Septem. Mais parce que ça a été la même chose que l'autre, c'était un long cheminement, je pense, la décision s'est prise comme ça, mais ça revient en fait au fait de juste de s'écouter, d'écouter ce qu'il y a au fond de soi, et évidemment il y a des gens que tu vas décevoir, mais en fait, c'est toi qui vis ta vie, quoi.
Mais il y a un truc très vrai, tu disais dans une de tes vidéos, je me demande si c'est pas celle où justement tu disais que t'arrêtais Septem, mais tu sais, si c'était important pour toi, c'est de pas... te sentir prisonnière de tes choix passés. Et ça, c'était assez vrai parce que souvent, on pense toujours au mouvement de bascule en disant je vais passer de A à B et après B, ce sera toute ma vie. Et en fait, non, enfin, ça se trouve, ça va être A, B, C et ça va continuer. Et c'est assez dur de, bah, c'est ce que tu disais au début de cette M, tu n'étais pas du tout la même et du coup, te permettre d'évoluer. Ouais. En fait, ce n'est pas si évident.
Non. Ce que j'ai pas mal dit au moment où j'ai arrêté, c'était l'idée d'être loyal envers soi-même. Et en fait, c'est ça qu'on se doit, je pense. C'est pas grave de se perdre à des moments, on le fait tous, dans sa vie pro ou dans sa vie perso d'ailleurs. Mais c'est essentiel à un moment de regarder un peu au fond de soi et de se dire, en fait, ma loyauté, je la dois envers quoi? Et en fait, c'est assez marrant parce que lundi, j'étais à une conférence du philosophe Charles Pépin. Il en donne tous les lundis soirs au MK2 Odéon. Je vous conseille vivement d'y aller, c'est hyper intéressant. Et le thème de lundi, c'était « Comment ne pas rater sa vie ?» Et donc, sa réponse, si je dois la résumer, c'était « On réussit sa vie quand on arrive à entendre ce qui compte vraiment pour nous. » Donc, ça rejoint un peu, en fait, cette idée de loyauté envers soi-même. Et je dis ça parce que ça répond un peu à ta question. Et en fait, après, il disait... il parlait de la notion d'échec et qui était du coup très important de ce point de vue-là. Pas à l'américaine pour dire les échecs, c'est génial, c'est une occasion de rebondir. Non, il y a des échecs qui sont hyper violents et tu ne rebondis pas du tout. Hein. Mais ils sont une occasion, ces échecs. En fait, du coup, ces échecs te confrontent à une certaine réalité et qui te poussent, du coup, face à elle, à te demander vraiment ce qui compte pour toi. Te demander ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Et ça, je trouvais ça assez fascinant. Et puis sur cette idée d'échec, il y a dit aussi un truc qui était hyper intéressant, c'est qu'il ne faut pas s'identifier ou rester cramponné à ses échecs ni à ses succès. Parce qu'en fait, les échecs et les succès, c'est que des expériences qu'on a eues, ce n'est pas qui on est. Et donc... Pour les succès, donc comme Septem a pu être un succès, ou comme du coup d'autres gens n'osent pas se lancer dans autre chose parce qu'ils ont déjà quelque chose quand même, ils restent accrochés à leur diplôme ad vitam aeternam, ils les mettent chez eux ou dans leur bureau et en fait ils s'accrochent à ça. En fait, avec ça, tu n'évolues jamais. Et en fait, oui, ça fait un peu peur de passer à autre chose. Et je pense qu'il y a toujours un moment où tu as des regrets et c'est normal d'avoir des regrets parce qu'en fait, si tu passes à autre chose, un espèce de saut dans le vide où en fait au début tu galères un peu et c'est normal. Tu auras toujours un regret qui sera vif dans ton esprit de ce que tu as plu et qui t'est somme toute assez confortable. Alors que si tu restes dans la situation dans laquelle tu es, où tu n'es pas vraiment heureuse, mais bon, tu restes dedans parce que c'est confortable, et puis, ok, tu vas avoir des regrets de peut-être jamais t'être lancée, mais en fait, ces regrets seront un peu diffus parce qu'en fait, ça reste un peu nébuleux ce que tu rates et ce dont tu rêvais, mais vers quoi tu n'es pas allée. Et donc, c'est peut-être plus confortable comme ça, mais je pense que sur la durée, c'est très dangereux parce que ça crée des frustrations énormes. Et puis...
Oui, parce qu'à t'écouter, là, on aurait tendance à se dire, OK, ne sautons pas, du coup.
Parce que ça serait prôner l'immobilisme. Et c'est d'une tristesse absolue. Enfin, ça manque d'esprit l'aventure. Et qu'est-ce que c'est la vie, si ce n'est l'aventure, quoi.
Et comment tu fais pour lâcher? Alors, tu vois, parce que souvent, les moments de bascule, enfin, moi, les témoignages que j'ai des gens que je croise à chaque fois, c'est... les peurs, mais tu vois, qui sont multiples, les peurs de l'échec, les peurs du regard des autres, les peurs financières, tous ces trucs-là, et il y a énormément de gens qui sont pétris, ce qui est normal, tu vois, de peur. Comment tu fais, toi, pour te détacher de ça?
Si on les prend dans l'ordre. Le regard des autres, moi, ça ne me fait pas du tout peur. Donc, en fait, ça, je n'y travaille pas. Enfin, je n'ai pas besoin d'y travailler. J'estime que, voilà, en fait, chacun a à vivre sa vie... Je ne vois pas très bien ce que le regard des autres a à voir là-dedans. Quoi. Alors, je comprends que ça puisse être important, mais si on est entouré de gens bienveillants, a priori, le regard qu'ils portent sur nous est bienveillant et va nous pousser vers ce qui nous fait du bien. Quoi. Et après, ceux qui ont d'autres avis, il faut arrêter de les voir momentanément. Non, mais c'est vrai. Au moment où j'ai arrêté d'être avocate, évidemment que tu entends plein de choses désagréables ou des gens qui pensent que ce n'est pas la bonne chose pour toi. Mais en fait, il suffit juste de ne pas les écouter et d'arrêter de les voir. Et parfois, ça peut être ses parents, parfois, ça peut être certains amis. Voilà. Et après, pour dépasser ses peurs sur... Après, les peurs, ça va être quoi? Ça va être de ne pas être compétent dans le nouveau domaine, que ça ne marche pas. Ouais. Et ça, moi, je les combats en travaillant.
Donc, par l'action.
Parce que déjà, il n'y a que comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Et puis, moi, c'est ce qui me rassure, quoi. Et parce qu'en fait, on a toujours peur de choses qu'on ne connaît pas. et de s'y mettre et de dire oh, je vais être nulle, etc. Et en fait, c'est quand on s'y met, on se rend compte que déjà on peut tout apprendre et on passe si longtemps que ça. Puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, on arrive à faire des choses et chaque victoire, aussi petite soit-elle, doit être célébrée. Alors ça paraît un peu, de nouveau, un truc un peu de bullshit à l'américaine. Il faut apprécier le chemin et pas seulement la destination. Et voilà, et célébrer chaque petite victoire, mais c'est vrai. Ne serait-ce que parce que, en fait, l'objectif final qu'on s'imagine au bout du chemin, il peut varier à plein de moments, quoi, en fait. Et si on se dit qu'en fait, tout ce qu'il y a entre n'a pas trop de valeur jusqu'à ce qu'on arrive à cet objectif final, mais en fait, c'est horrible si on n'arrive pas à l'objectif final. On a l'impression d'avoir raté tout ce qui s'est passé, toutes les années ou les mois qui se sont passés entre. Alors que si on fait chaque petite victoire entre, on a eu plein de trucs trop cool sur le chemin. Et puis, si l'objectif est emmené ou la destination finale change, c'est pas si grave, quoi.
Et sur ta bascule donc plus récente, comment tu as travaillé de manière introspective pour te dire « Ok, donc, mon podcast, j'ai envie qu'il devienne autre chose, j'ai envie de faire une autre activité. » Comment c'est venu ? Est-ce que c'est venu spontanément à toi ou est-ce que, je ne sais pas, tu as pris du temps pour toi, tu es sortie de ton quotidien ? Quels sont tes secrets ?
Ben, sur cette idée de l'OIT envers moi-même, je me suis juste dit « Quitte à ce que j'arrête septembre, je vais me replonger en moi et faire vraiment totalement ce qui m'anime aujourd'hui. » Et ça, j'ai pas dû aller chercher très loin. Enfin, je veux dire, ouais. C'était assez clair pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, j'adore la nourriture. Ça fait des années que ça me trotte dans la tête. Avec Septem, j'avais commencé quand même à mettre pas mal de nourriture dedans. Parce que grâce à la partie média, c'était un peu mon fourre-tout. Je mettais bien tout ce qui m'intéressait dedans. Donc, j'avais commencé à faire des vidéos de recettes, à interviewer des chefs ou des gens dans la nourriture. Voilà.
Le vendredi, par exemple.
Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, voilà, je me suis dit, ben, je vais creuser plein de pistes dans tout ce qui m'intéresse. Mais là, tu vois, à l'heure où on se parle, on est mi-janvier, c'est pas encore tout à fait clair ce que je fais, hein, ou ce que je vais faire. Donc, j'explore plein de choses. Je savais que, pour le coup, le podcast, j'adorais cette partie-là de mon ancien travail, donc je me suis dit, je vais le garder, mais sous une autre forme, parce que quand je l'ai lancé il y a 5 ans, j'étais dans ce truc du début, dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écouter le parcours d'autres entrepreneurs, comment ils avaient fait, comment ils avaient réussi. Et au bout de 5 ans, comme j'avais fait tout ce petit parcours entrepreneurial-là. J'avais envie d'entendre parler d'autres choses, surtout qu'entre-temps, plein de podcasts étaient lancés sur ce thème-là. Donc, je me suis dit, je vais garder mon podcast et je vais les interroger sur moi, ce qui m'excite en ce moment, le rapport aux émotions, qu'est-ce que c'est l'amour pour toi, comment est-ce que tu manges, tu vois, comment est-ce que tu habites le monde. Et donc, c'est pas du tout calculé, c'est pas du tout stratégique, c'est juste, j'essaye de farfouiller en moi tout ce qui m'anime et de voir ce que je peux faire professionnellement avec.
Mais le passage à l'action, il a l'air hyper simple pour toi. Enfin, après, peut-être c'est parce que tu le racontes comme ça, mais tu vois, est-ce qu'il y a quand même des moments où tu dis j'ai envie de faire ça, mais ça veut dire qu'il faut que je sorte de ma zone de confort pour telle et telle chose.
Ah, mais je sors tout le temps de ma zone de confort. Le podcast, je ne sors pas tellement de ma zone de confort, mais quand même, parce que donc, le podcast s'appelle Ressentir. Pour ceux qui l'ont écouté, je pose quand même des questions assez différentes de tout ce qui se pose dans les autres podcasts, sans dire que j'ai révolutionné le truc, mais je pose quand même des questions très perso aux gens. Quand tu arrives face à des personnes que tu connais pas très bien, je suis pas, au début, je suis pas hyper... je suis un peu stressée avant d'arriver, tu vois, et avant de poser certaines questions, mais je suis trop contente de ce qui en ressort. Et après, pour le reste, voilà, je voulais écrire sur la nourriture. Ça fait 3 ans que j'écris des vendredis, donc c'est un post que je publie tous les vendredis sur Instagram autour de la nourriture. Et ce n'est qu'un post Instagram, quoi. Et donc, à partir de là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire pour écrire sur la nourriture ? J'ai envie d'écrire un livre sur les liens entre émotion et alimentation. Et ben, cet été, je me suis pris 10 jours au lieu de partir en vacances pour commencer à écrire toute seule et présenter ça à un éditeur à la rentrée. Tu vois, et puis je me suis dit, en fait, j'ai trop envie d'écrire pour le fooding. Et ben, j'ai contacté le fooding pour faire des chroniques tests. Mais attends, là, ça paraît simple, mais attends, quand le fooding m'a dit, très bien, envoie-nous tes chroniques tests. j'ai mis un mois avant de l'écrire, la chronique.
Okay.
Et j'étais méga stressée. Il y a plein de fois, je me suis dit, en fait, je vais leur dire que je ne vais pas écrire la chronique, que j'en suis incapable. Non, mais c'est vrai. Et je fais quand même des refus d'obstacles. Hein. Je ne suis pas non plus... tu vois, le livre, j'ai commencé à écrire pendant l'été. Je l'ai présenté à l'éditeur à la rentrée. Il m'a dit, vas-y, envoie-moi ton premier chapitre après l'intro et tout. Pendant un mois et demi, j'ai pu toucher à mon livre parce que je me suis dit, en fait, je suis pas sûre de pouvoir le faire. Et puis, en fait, c'est par l'action où je me suis redit après ça. Allez, attends, tu t'y remets. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est une fois que tu le fais, bah, ça marche, la chronique pour le fooding. Je me suis dit, OK, cet après-midi, maintenant, tu te sors les doigts des fesses, tu prends le fooding, pendant une heure, tu vas lire les chroniques, parce que c'est toujours les peurs de « je ne suis pas capable d'écrire de cette manière-là » ou « je ne suis pas capable de faire ça ». Eh bien oui, bah, alors j'ai pris le fooding, j'ai lu je ne sais pas combien de chroniques là, pendant une heure pour me mettre dans l'esprit. Et après une heure, je me suis dit « bon, ça n'a pas l'air si compliqué, ça, je dis ça, ça se trouve, je n'ai jamais de publier dans le fooding ». mais je me suis dit « bon, je comprends mieux la vibe, je pense que j'en suis capable ». J'ai commencé à écrire et j'ai adoré ça et, c'était trop, et j'ai vécu deux trop bonnes heures à écrire la chronique, j'ai adoré quoi. Mais bon, il faut à chaque fois dépasser la peur et c'est en s'y mettant que...
Ok, donc par à l'action. Voilà. Je vais laisser un peu de temps quand même. Du coup, je te pose la question rituelle du podcast. Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ?
Réfléchir à la personne que vous aspirez à être. Ça rejoint un peu l'idée, tu vois, de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous.
C'est hyper pas du tout concret.
Ouais, non, mais... Si, j'y viens.
Mais non, mais pour moi,
je te donne la grande idée, puis j'arrive à la pratique.
Voilà.
Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais laisse-moi dérouler ma pensée. Ouais, réfléchir à la personne qu'on aspire à être, parce qu'en fait, c'est le début de tout, et ça débloque pas mal de choses. Je pense que si n'importe qui prend le temps là, de réfléchir un peu, oui, c'est stressant. Mais en fait, ça accompagne toute une vie, parce qu'après, les projets peuvent changer, mais a priori, la personne que tu aspires à être ne change pas toute ta vie. Hein. Et ça, pour moi, il y a deux choses. C'est pour aider la réflexion. C'est la technique de l'aller-retour. Donc, ça fonctionne pour le steak tartare, ça fonctionne aussi pour ça. L'aller-retour, c'est d'abord l'introspection. Donc, c'est aller farfouiller en soi, quoi, réfléchir seul ou accompagné. Je ne saurais assez recommander les visites chez un psy ou un coach ou je ne sais pas quoi, mais... Parce que seul, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, moi, en tout cas, il y a des gens qui arrivent très bien, moi pas. C'est bien de se faire accompagner sur ce chemin-là. Donc, introspection, et puis après, aller dans l'extériorité du monde, rencontrer des gens, rencontrer physiquement des gens, solliciter des cafés. Après, plein de gens n'ont pas le temps de ces cafés-là, mais il y en a qui l'ont. Écouter des podcasts, quoi, lire. Enfin, écouter un podcast, c'est quand même c'est formidable quand même. T'as accès à des gens qui vont parler pendant une heure, parfois plus. Il y a des podcasts qui vont jusqu'à trois heures. Et les gens se livrent dans une intimité avec une vérité avec laquelle ils se livreront de toute façon pas un café que t'auras obtenu avec eux. Et tu peux te nourrir comme ça, c'est formidable. Et en se confrontant aux visions du monde des autres, à ce qu'ils font, à leur manière de penser, je trouve que ça aide vachement à avancer, à réfléchir du coup à soi-même, selon ton envie, ce qu'on a envie de faire et la personne qu'on aspire à être.
Chouette. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je ne t'ai pas demandé, mais est-ce que tu parlais tout à l'heure de Charles Pépin, est-ce que tu as des inspirations? Ça peut être des livres, des podcasts, des personnes qui t'ont aidé.
Oui, Charles Pépin, j'adore. Il a une émission sur France Inter qui s'appelle Sous le soleil de Platon. Franchement, tous les épisodes sont incroyables. Et puis, il y a ses conférences lundi soir, il y a ses livres. La rencontre, c'est génial. La confiance en soi aussi. En philosophie, on ne la présente plus, mais Marie Robert et son compte Philosophie Sexy, c'est quand même genre tous les matins, parce que c'est quand même une des personnes les plus consistantes que je connaisse, tous les matins, elle publie quelque chose de très intelligent à 7h du matin et ça vaut la peine de le lire. Non, mais c'est vrai. Et après des livres, je pense que je te ferai une liste parce qu'on ne va pas s'en sortir, mais et dans mes stories permanentes, Book Club, j'en ai mis pas mal aussi. Mais oui, moi, c'est la lecture et les podcasts qui m'aident le plus.
Okay. Et j'allais dire, du coup, donc, avant qu'on passe aux questions, pour ceux qui veulent en savoir plus, là où on peut trouver le plus de matière, c'est sur ton compte Instagram.
Oui.
Okay. Et c'est tout collé, Jessica 3 Fontaine.
Jessica _ 3 Fontaine. Enfin, le tiré du bas entre mon prénom et mon nom.
Ok. Et pour le podcast, c'est Ressentir.
Ressentir.
Sur toutes les plateformes d'écoute.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Jessica.
Merci.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.